tout entendu, je me suis dit, on devrait rêver ce soir. Et si on rêvait que les parlementaires votent une loi, par exemple une loi 803 du 5 juillet 2012, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Une loi géniale, dans lequel, qui serait d'ailleurs un titre supplémentaire au Code de la santé publique, et qui commencerait, chapitre 1, définition des soins psychiatriques et de la santé mentale, soins de proximité et ambulatoire, hospitalisation temps plein, une alternative aux autres prises en charge, création du service public de la psychiatrie et de la santé mentale, c'était le premier chapitre. Les droits, deuxième chapitre, droit au logement, droit à la permanence des aidants aidés, et donc à l'aide aux aidants, information, formation en hospitalisation et à l'extérieur pour les patients, droit au travail et aux activités, droit aux soins, droit à la déstigmatisation, pacte de communication positive. Troisième chapitre, gouvernance et territoire, de la psy au secteur et l'articulation avec le secteur social et médico-social. Mais c'est une grande loi de santé publique. C'est une grande loi de psychiatrie, celle que nous réclamons. Pourquoi ce titre de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ne s'occupe que du soin sans consentement? Ça me paraît être une publicité mensongère. C'est pas éthique d'avoir un titre pareil. C'est un petit peu comme ces camemberts qui s'appellent président. J'ai une loi, j'ai un titre, et c'est pas éthique. Je suis désolé. La loi dont on doit rêver aujourd'hui, c'est la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Et dans les modalités de leur prise en charge, il y aurait même une évaluation de la prise en charge, ce que je n'ai pas dans cette loi du 5 juillet. Alors, ayant rêvé, bien sûr, il faut atterrir, et nous avons eu la loi du 5 juillet 2011, qui n'est pas relative aux droits et à la protection des personnes, mais qui est relative aux soins sans consentement, qu'ils soient hospitalisés ou ambulatoires, et c'est ce titre-là que nous aurions dû avoir. Alors, bien sûr, si nous la conjuguons au passé, au présent, à l'avenir, et ce ne sera peut-être pas plus que parfait, bien entendu, bien si nous allons la conjuguer au passé, oui, nous avons tous, en tous les cas, beaucoup d'entre nous, souhaité une intervention du juge. Nous avons souhaité cette intervention, clairement, et nous attendions la loi de réforme de la loi de 90 depuis quelque temps, et nous avions partagé un rêve et un désir de loi qu'effectivement la loi qu'on nous a proposée ne satisfait pas complètement, loin s'en faut, car elle crée bien sûr un droit formel, ce droit de la liberté, mais elle tue un droit réel, c'est-à-dire le droit aux soins. Un droit sans moyens n'est pas un droit, oui, effectivement, que dans la mesure où nous mettons en place un droit formel, mais qui se traduit par une juridiciarisation, c'est-à-dire une création d'une procédure judiciaire, on aboutit d'ailleurs à un contentieux, alors que nous avions rêvé d'une judiciarisation, c'est-à-dire l'intervention du juge, qui aboutissait justement simplement à un contrôle. Donc, nous demandons un contrôle du juge, nous avons le droit à un contentieux dans les procédures judiciaires. Là aussi, il y a peut-être une tromperie sur ce que nous espérions en tous les cas. Alors ça, c'est le passé. Alors au présent, ben, on a beaucoup discuté, mais moi je vous donnais quelques chiffres. C'est vrai que finalement, dans les établissements, en catadesme, il y a peu d'établissements qui bénéficient du déplacement du juge. Or, nous savons, et l'enquête le prouve, que chaque fois qu'il y a un déplacement du juge au sein de l'établissement, ça se passe, je ne vais pas dire merveilleusement bien, on n'est pas des bisounours, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les juges de la liberté viennent, connaissent davantage, ils ne pratiquaient pas la spécialité. Donc ils connaissent les établissements, ils les découvrent. Et alors c'est vrai qu'on peut découvrir l'horreur, mais heureusement on découvre aussi l'excellence en architecture, l'excellence en accueil, l'excellence en hospitalisation de jour, l'excellence dans les soins extérieurs, etc. Ne disons pas et ne laissons pas croire que la psychiatrie et la santé mentale en France ne seraient que le pire de ce que l'on voit, y compris la bétaillère d'ailleurs, Claude. Bon, mais voilà, donc ça c'est un point important, donc un taux faible finalement de déplacement des juges. Trois régions, dont le Nord-Pas-de-Calais récemment, mais heureusement Arras a changé la donne, trois régions n'avaient aucun déplacement de juges. Je les cite, Lorraine, Limousin et nous, Nord-Pas-de-Calais pendant quelques temps, mais j'espère, et on peut espérer que
cela évolue.
Alors, finalement, très peu pratiquent la vidéoconférence, et très peu, encore moins peut-être que ceux qui pratiquent, ont envie de le faire. Donc, on peut un peu respirer sur ce thème, même si les 6 millions sont envisagés. Alors, éthique dans l'usage des fonds publics, il y aura peut-être des discussions complémentaires à avoir. Monsieur le contrôleur, nous souhaitons votre appui définitif également, y compris dans l'usage de l'argent public, qu'on va peut-être nous donner, qui pour l'instant est dans une enveloppe générale. Alors maintenant, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, déjà, sans dispositif législatif, il y a deux choses que l'on peut espérer. C'est qu'effectivement, il soit clairement établi que, non pas l'injonction, mais l'invitation des juges à se déplacer est renforcée. Donc peut-être des moyens, mais nous aussi, nous pouvons éventuellement, établissement, aider au déplacement des juges et les accueillir dans des conditions qui doivent être remarquables. Et ça, on peut le faire. Deuxième point important, les moyens. Ben nous les avons, semble-t-il, espérons que, encore une fois, ça ne s'enveloppe pas ou ça ne se perd pas dans les, comment dirais-je, dans les arcanes budgétaires ou les affectations fongibles des moyens de la psychiatrie. Nous espérons, en fait, comme d'habitude, une espèce de sanctuarisation des crédits de la DAF. Donc, effectivement, c'est un point important. Rappelons quand même, alors, moyens plus le juge se déplaçant. Il faut quand même rappeler que le rapport des députés Briscoe, députés Lefranc et Briscoe ont effectivement, eux aussi, insisté pour que le juge se déplace. Donc nous pouvons penser que c'est inscrit également dans le plan psychiatrie et santé mentale qui vient de sortir après Conseil des ministres. Donc on peut compter quand même qu'il y ait un plus de déplacement. Et je pense que nous avons là, nous pouvons l'espérer évidemment. Alors, et puis, peut-être, maintenant pour l'avenir, mais là, dispositif législatif, une réduction des certificats médicaux, bien entendu, une définition claire, et là, il y a une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité sur les soins ambulatoires qui va passer, puisque le Conseil d'État s'est exprimé sur ce sujet, donc un complément législatif qui s'appliquera aux soins ambulatoires sans consentement, donc le programme de soins, définition législative, c'est essentiel, parce que c'est très important, parce que c'était un élément fondamental et nouveau de la loi du 5 juillet. Et puis peut-être une réflexion, nous l'évoquions, monsieur le contrôleur général, une réflexion qui consisterait à se poser la question, pour revenir un petit peu presque à la case départ, et se dire: quel est le contrôle, quel est le niveau de contrôle du juge qui satisfait les principes de séparation des pouvoirs et qui permet à la fois, justement, au juge d'exercer ce contrôle de constitutionnalité et de liberté, de respect de la liberté au travers des dispositifs obligatoires de soins sans consentement, et qui ne serait pas qui ne serait pas la constitution d'un contentieux, car finalement, l'ambivalence ou l'ambiguïté est là, ne nous sentons pas, nous, en contentieux. C'est-à-dire que nous avons un soin, et un soin nécessaire. Ce soin nécessaire est environné de la rupture, de la liberté du consentement par rapport aux malades, mais cette situation n'est pas propre à la psychiatrie, elle existe dans les services d'urgence, en réanimation, dans l'autre service en dialyse, etc., dans des services du secteur MCO, et alors dans ce cas-là, si nous devons réfléchir aux soins sans consentement, pourquoi nous spécialiser, nous qui faisons de la psychiatrie et de la santé mentale, nous qui soignons des personnes qui évidemment ont besoin d'un soin sans consentement, pourquoi nous spécialiser? Il convient d'avoir un juge spécialisé dans le rejet ou l'absence du consentement dans toutes les catégories médicales, dans toutes les zones du soin, et qu'effectivement il n'y ait pas une stigmatisation par un juge particulier qui s'appelle évidemment le juge de la détention, vous m'avez compris, donc un juge effectivement qui serait affecté à cette fonction ne serait pas effectivement contraire, et bien entendu au contraire on aurait la catégorie, le soin c'est un tout, et le consentement aux soins, nous le constatons, le refus de consentement ou le refus du soin, nous le constatons dans d'autres domaines, et il y a d'autres domaines où il y a exigence d'un soin, d'un environnement sans consentement du soin. Donc espérons que cette vision est plus simple dans le contrôle et plus large dans sa définition et son application pourrait satisfaire en tous les cas une évolution de notre fonction.
Merci.